Actes des Apôtres, le chapitre 18, Actes chapitre 18, on s'est arrêté au verset 18. J'aurais commencé la lecture au verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, et on continuera un peu dans le chapitre 19. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchrée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Le livre des Actes des Apôtres, que nous étudions depuis 8 mois, est le premier ouvrage d'histoire de l'Église, jamais rédigé. Il est un livre de transition. En fait, il nous fait passer du ministère de Jésus à celui des apôtres, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est un livre de transition d'Israël comme témoin, comme nation témoin de Dieu, à l'Église composée de juifs et de non-juifs, peuple témoin de Dieu. Il n'y a pas vraiment de difficulté dans ce livre des Actes des apôtres, tant que nous le prenons pour ce qu'il est, c'est-à-dire la parole de Dieu inspirée, et un livre historique où nous sont rapportées toutes ces transitions. Les grandes difficultés viennent lorsqu'on cherche à établir notre théologie à partir de ce livre. Je voudrais donner un exemple. Si vous tournez en début des Actes, au chapitre 2, la fin du chapitre, il est dit au verset 47... La fin du verset, il dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour, c'est donc juste après la Pentecôte, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Chapitre 3, verset 1er, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. » Alors là, on a un petit problème là. L'Église est née, l'Église existe, l'Église fonctionne, elle s'accroît de jour en jour, et pourtant, on a deux des leaders principaux de l'Église de Jérusalem qui montent au temple et qui vont prier là-bas. Et c'est curieux quand même. L'Église vit, mais le judaïsme vit encore également, notamment dans le cœur de ces Juifs convertis. Le judaïsme, ce n'est pas une page qu'on tourne. C'est bien plus que cela, c'est une culture, c'est un mode de vie. Et pour les Juifs qui se convertissent à Christ, il y a une transition qui doit se faire. De la même manière que ceux qui viennent de l'islam aujourd'hui et qui se tournent vers Jésus-Christ ont un temps de transition, une transformation de leur manière de vivre, de penser, concernant presque toute chose de leur vie. On a déjà vu dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14 notamment, versets 15 et 16, je vous lis juste ces versets, mais il dit « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit « Il y a des gens qui sont encore fragiles sur ces questions d'alimentaire. Ils viennent du judaïsme, ils ont toujours mangé kasher. Ou ils viennent de l'islam, ils mangent toujours halal. Et là, du jour au lendemain, vous leur dites, « Mais mon frère, c'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. C'est pas un aliment qui nous éloigne de Dieu. C'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui souille l'homme. C'est ce qui sort de ta bouche parce que ça provient de ton propre cœur. » Et le frère, il est fragile encore sur ces questions-là. Et il dit, c'est pas la peine de le scandaliser avec ces affaires-là. Ne fais pas d'un aliment un problème. Respecte ce temps où il est en transition. Il va comprendre ces choses-là. Il va s'attacher fermement au Seigneur Jésus. Et après, ces histoires alimentaires, ça lui passera. Mais ne le scandalise pas aujourd'hui avec ces affaires-là. Je me souviens, tout début où je me suis converti, je suis allé témoigner à ma petite amie, Anne-Sophie, maintenant mon épouse depuis quelques années, 22 ans. Et puis on a prié. Quand on a prié, elle m'a dit, mais ça ne te dérange pas si je fais mon signe de croix? Non, ça ne me dérange pas. Mais moi aussi, j'étais issu du catholicisme, et dans notre tête, si on n'avait pas fait notre signe de croix, on n'avait pas prié. Et donc, pour elle, elle a fait ça. Bon, elle a fait une fois, elle a fait deux fois, et puis après, elle s'est rendue compte que sa relation dépendait de Jésus-Christ, et pas d'un signe de croix, d'un geste. Et donc, ces choses-là, elle était en transition. Et on a besoin parfois de ce temps de transition pour avancer avec le Seigneur. Dans notre texte, ici, on voit que l'apôtre Paul, il y a trois illustrations qui nous sont données de ces transitions. D'abord, on va voir l'apôtre Paul, ce texte qu'on vient de lire. On verra aussi l'Apollos, juste après. Et puis, au début du chapitre 19, les 12 disciples de Jean-Baptiste. Alors, chez Paul, on se souvient que des jours difficiles ont accompagné cette arrivée de Paul à Corinthe. Il a eu de l'opposition, si je reprends le chapitre 18, il est dit, verset 6, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Il était saisi même par le découragement, parce qu'il ne voyait pas vraiment de fruits dans son ministère, au point que le Seigneur a dû lui donner une promesse particulière pour qu'il poursuive l'œuvre qu'il avait commencée. Regardez au verset 9, il dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point !» Mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Finalement, des âmes se sont données à Jésus-Christ. Et quand ces âmes se sont données à Christ, il y avait notamment Sosthène, il y avait Crispus et Justus, ce sont des responsables de la synagogue. Et ils ont été bouleversés par les messages de l'Évangile. Ils ont même accepté de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Un jour, les Juifs se sont soulevés unanimement contre Paul et l'ont traîné devant le tribunal. Et là, interpellé Gallion, qui était le proconsul, et ils leur ont dit, verset 13, « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à notre loi. » Et avant même que l'apôtre Paul puisse se défendre, eh bien le proconsul Gallion les a déboutés. Au verset 14, il dit « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. » Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Et je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Finalement, Paul a échappé à cela et il est resté un certain temps à Éphèse, dans cette ville où il a pu faire de nombreux disciples. Il semble ici que Paul voulait manifester sa reconnaissance envers Dieu à cause de son secours, à cause du soutien qu'il lui a apporté. Et comment donner sa reconnaissance au Seigneur? Comment faire connaître sa reconnaissance au Seigneur? Eh bien, il a fait un vœu. Parce que dans les Écritures, dans le livre des Nombres, on peut faire un vœu. Et il semble que ce vœu, c'est un vœu de reconnaissance envers le Seigneur. Et à quoi ça consistait? C'était un engagement, une consécration, un désir de chercher la face de Dieu plus que jamais, se mettre à part, ne prendre aucune boisson alcoolisée pour que toute notre joie vienne du Seigneur lui-même. Les Juifs ne faisaient pas ce vœu de Naziréen pendant des années. Ils faisaient ça 30, 60 ou 100 jours. À l'exception de trois hommes qui nous sont donnés dans la Bible, il y avait Samson, il y avait Samuel et puis Jean-Baptiste, qui eux ont été consacrés à Dieu dès le ventre de leur mère. Et ils ont fait ce vœu naziréen pour toute leur vie. Mais la plupart des Juifs faisaient ce vœu d'une manière ponctuelle. Et Paul a fait ce vœu-là. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça d'une manière ponctuelle? Mais parce que Dieu connaît nos cœurs. Et il sait qu'on a tellement de difficultés à tenir ferme dans nos engagements de consécration. Et donc, Paul a fait ce vœu, et puis il s'apprêtait à repartir vers la Syrie, c'est-à-dire vers l'église qu'il l'avait envoyée à Antioche. Et quand il prend le bateau, il était à Corinthe, il va au port, à Sancrée, et là, à Sancrée, il y a déjà une petite église qui est là, son vœu arrive à terme. Et quand on avait fini ce vœu, cette période de consécration, celui qui avait fait le vœu, il devait se raser complètement la tête. Et puis ensuite, il devait prendre ses cheveux et filer à Jérusalem et les apporter à Jérusalem et les brûler avec toute une offrande dans le temple à Jérusalem. Il avait seulement 30 jours. Il devait faire ça dans les 30 jours qui suivaient le fait de s'être rasé la tête. Souvenez-vous, Paul, il était autrefois le champion du judaïsme. Il connaît toutes ces choses parfaitement. Il les a probablement déjà pratiquées plusieurs fois. Mais il est aussi le champion de l'évangile, de la grâce. Il sait que ces choses ne sont que des rites. C'est son cœur que Dieu regarde. Mais je crois qu'il les fait ici qu'il a fait ce vœu pour apaiser la fureur de ces Juifs qui disent « Il nous enseigne à vivre d'une manière contraire à la loi. » Et Paul dit non. Je vous enseigne pas cela. Je vous enseigne à vivre votre judaïsme. Mais le judaïsme, ça doit vous conduire à Jésus-Christ. Et c'est cela que je vous annonce. Si vous voulez vraiment être un juif accompli, allez jusqu'à Jésus-Christ. Mais il ne veut pas être en scandale pour eux. Paul a de la liberté quant aux pratiques du judaïsme. Mais vous ne trouverez dans aucune de ses épîtres un enseignement sur une telle manière de montrer sa reconnaissance. Inutile de vous raser la tête aujourd'hui. Si vous prenez le livre des Actes comme un livre de doctrine, de théologie, alors vous devez faire cela. Rasez-vous la tête et courez à Jérusalem pour offrir. Ah oui, mais là, il y a un problème, c'est dans le temple qu'il faut faire ça. Il n'y a plus de temple. Dieu nous apprend à montrer notre reconnaissance autrement, avec un cœur sincère, avec des cantiques, avec nos libéralités. Et donc, il traverse la mer, il arrive à Éphèse. Et là, il est avec ses compagnons, Paul et avec Aquilas et Priscille. Et comme à son habitude, il va dans la synagogue. Et là, dans la synagogue, il est vraiment bien reçu. Et les gens veulent l'entendre et l'entendre et l'entendre encore. Et lui, il dit, non, il faut que je rentre à Jérusalem. Il y a une fête là-bas. Et puis en plus, j'ai fait un vœu. Il faut que j'apporte mes cheveux. Imaginez la chose. Ça, c'est quand même surprenant. Étant entré dans un synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Et lui dit, non, je n'y consens point. Il prit congé d'eux. Il dit, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai si Dieu veut. C'est incompréhensible. Quand on veut chasser Paul, il reste. Quand on lui demande de rester, il s'en va. Et ça, pour quelle raison? Il veut aller brûler ses cheveux. C'est ça. Il veut aller brûler ses cheveux à Jérusalem. Et il a 30 jours pour le faire, il faut qu'il file. Franchement, avec une porte ouverte comme jamais à Éphèse, il veut partir brûler ses cheveux à Jérusalem, à cause d'un vœu qu'il a fait à Corinthe. Sérieusement. Je crois que Paul a fait cela, non pas à cause de ses cheveux, mais à cause de son vœu. Non seulement dans l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de Dieu, mais plus encore, je crois, vis-à-vis des Juifs corinthiens qui ont entendu l'Évangile et qui sont dans cette période où ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et si Paul ne part pas brûler ses cheveux à Jérusalem, son vœu n'est plus valable. Alors, il aurait été un scandale. Il aurait dit aux Juifs de Corinthe, je pars à Jérusalem, et puis il ne l'aurait pas fait. Et ça, vous voyez-vous, ça aurait probablement scandalisé ces Juifs, et qui se seraient peut-être rebellés contre les paroles de l'Évangile qu'avait annoncé l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Je pense que c'est capital de tenir nos engagements pour que nous soyons crus. Si nous tenons nos engagements avec nos enfants, quand il s'agit simplement des choses de la vie courante, eh bien, ils nous croiront quand on va leur parler de l'Évangile, des choses essentielles. Si on ne tient pas nos engagements, alors ils vont prendre notre parole comme une parole légère, parole en l'air. Et je crois que l'apôtre Paul, il est allé exprès à Jérusalem, brûler ses cheveux, participer à cette fête, simplement pour tenir sa parole et son engagement, son vœu vis-à-vis des frères, enfin des Juifs de Corinthe, qui avaient besoin de cela pour croire en l'Évangile. Il avait dit, si Dieu veut. Et peut-être quand vous vous engagez dans votre parole, dites « si Dieu veut ». Reconnaissez que peut-être vous ne serez pas capable de tenir votre parole. Mais si Dieu veut, je ferai ceci, je ferai cela. La deuxième transition que l'on voit, c'est avec Apollos. Et je vous propose de lire les versets qui suivent, verset 23. « Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et il parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Alors ici, c'est le début du troisième voyage missionnaire. Paul repart, après avoir porté ses cheveux à Jérusalem et salué l'Église. Il s'est rendu à Antioche, il a donné son rapport missionnaire, il a passé quelque temps avec ses frères, et il reprend la route pour fortifier tous les disciples. Remarquez une chose ici, c'est que l'apôtre Paul repasse dans les églises qu'il a visitées. Il continue ce travail parmi les disciples du Seigneur, et ce sont les disciples du Seigneur qui font le travail d'évangélisation et d'édification. Voyez-vous, c'est là la force de l'apôtre Paul. Il a parcouru dans tous les sens. Il est repassé dans ses églises. Il a fortifié ses disciples. Et les disciples fortifiés pouvaient évangéliser, annoncer le message de l'Évangile et édifier le corps de Christ, l'Église. Pendant ce temps, à Éphèse, où sont Aquilas et Priscille, arrive un homme, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte, c'est là où il y a le phare d'Alexandrie, pour ceux qui ont étudié Claude François, vous savez ça. C'est un homme éloquent, cet homme cet Apollos. Un homme éloquent, c'est-à-dire, le terme grec, c'est instruit, un homme de lettres, un expert en littérature et en art. Il est spécialement versé dans l'histoire et l'Antiquité. Habile dans les discours, rationnel, il est sage. Et remarquez encore, il est versé dans les Écritures. Ça, c'est très intéressant comme mot. Versé dans les Écritures, c'est puissant dans les Écritures. C'est-à-dire, il excelle dans la connaissance des Écritures. Là, il parle de l'Ancien Testament uniquement. C'était un orateur, un enseignant hors pair. Probablement bien meilleur que l'apôtre Paul. Quand Paul, il écrit aux Corinthiens, il dit, pardon, au chapitre 2, par exemple, il leur dit, chapitre 2, verset 1, en Corinthiens 2, 1, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Un petit peu plus tard, dans la deuxième épître, au chapitre 10 et au verset 10, il est écrit, « Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. » Voilà ce que l'on disait de l'apôtre Paul. Et il semble que Apollos, lui, par contre, il avait une aisance pour parler, et puis il avait une connaissance de l'Ancien Testament extraordinaire. De sorte que, même dans l'église de Corinthe, hein, quelque temps après, parce que après cette rencontre à Éphèse avec Aquilas et Priscille, il s'est rendu à Corinthe. Et les Corinthiens ont dit, je lis en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 12, « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Et on comprend bien que Paul, il est le fondateur de l'église de Corinthe. On comprend bien Pierre, c'est l'apôtre des païens, l'apôtre des juifs, l'apôtre des juifs, c'est celui qui a prêché à Pentecôte. Alors voilà, on se réclame de Paul, on se réclame de Pierre, on se réclame de Jésus-Christ, heureusement quand même. Mais on même se réclame de Apollos. Et certainement qu'il a marqué par son enseignement cette église très rapidement. Et tout cela, ça semble être naturel chez lui. Je crois qu'à ce moment, quand Aquilas et Priscille trouvent Apollos dans la synagogue, je crois que Apollos n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien tel que l'on le comprend, nous, aujourd'hui. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit travaille en lui d'une manière générale. Il dit des choses vraies, des choses qui sont conformes à l'Ancien Testament. Au verset 25, dans notre passage, en Actes 18, il est dit, verset 25, « Il était instruit dans la voie du Seigneur. » Mais être instruit dans la voie du Seigneur, c'est simplement marcher dans les choses de Dieu, dans la révélation que l'on a de l'époque. Il est dit, il était fervent d'esprit, c'est ce qu'on demande aux hommes, mais d'esprit, de son esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais là, Luc ajoute, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Et c'est cela qui est très important de relever ici. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. C'est-à-dire, il avait entendu parler de Jésus. Il croyait ce qu'on lui avait enseigné sur Jésus. Mais il connaissait ce qu'on enseignait sur Jésus que de la bouche de Jean le Baptiste. Et Jean Baptiste, il est mort avant la croix du Christ. Il a enseigné, repentez-vous, préparez vos cœurs, parce que le Messie vient. Et le Messie, c'est Jésus. Et donc c'est ce qu'il croit. Il croit que le Messie, c'est Jésus. Mais il n'a pas encore fait cette expérience avec Christ. Il n'a pas encore placé sur Christ le poids de son péché. Il n'a pas reçu le pardon de tous ses péchés et la vie éternelle. En dépit de toute sa connaissance, Apollos ne comprenait pas pleinement la vérité chrétienne. Apollos acceptait toutes ces vérités de l'Ancien Testament. Et son cœur était disposé, son cœur était repentant. Mais il n'y avait pas encore cette foi dans le sacrifice, dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus. Pourquoi ? Et parce qu'il ne savait pas ces choses. Il ne savait pas ces choses. Il est arrivé, et il ne savait pas ce qui est arrivé ensuite à Jésus. Il ne connaissait pas sa mort, sa résurrection. Il n'avait pas entendu parler de la Pentecôte. Il ne connaissait pas le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus qui est administré à chaque croyant. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est flagrant. Chaque fois qu'il y a un homme qui croit au Seigneur Jésus, il est immédiatement baptisé. Il n'y a pas des années qui s'écoulent. Non, il ne connaissait que le baptême de repentance. Il ne connaissait pas ce baptême de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors Aquilas et Priscille, ils l'ont invité chez eux. Ils étaient à la synagogue, ils l'ont entendu. Ils ont dit, wow, celui-là, il a l'air zélé. Il a l'air de bien connaître la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Mais il lui manque quelque chose dans la connaissance de la voix du Seigneur. Il dit, viens manger chez nous. Ma femme t'a préparé un couscous. Et là, il lui enseigne davantage. Et quand il entend cela, ça y est, il capte, il croit. Il croit de tout son cœur. C'était le déclic. Voyez-vous, Apollos, il était en transition. Son cœur avait été préparé par le Seigneur. Il s'était repenti. Il avait accepté les choses de l'Ancien Testament. Il lui manquait juste qu'on lui montre Christ crucifié pour lui. Ils ne l'ont pas traité d'hérétique. J'aime bien ça. Vous avez vu, ils ont pris cet homme, il était là où il était. Il était déjà bien avancé, mais il n'était pas encore à Christ. Et ils lui ont expliqué, ils lui ont exposé davantage. Et comme Apollos, il était versé dans les Écritures, il pouvait vérifier que tout ce qu'on lui disait était conforme aux Écritures. Que son cœur était préparé, il s'était repenti, il était préparé à croire et à recevoir le Seigneur. Alors il croit et il est sauvé. Et à présent, tout le message, il l'a. Et il veut l'annoncer, et c'est pour ça qu'il se prépare à partir pour Corinthe. Et c'est pour cela aussi que Aquilas et Priscille et les frères d'Éphèse peuvent le recommander en lui disant « Recevez-le, il va vous faire du bien, lui !» Et c'est ce qui se passe. Il arrive à Corinthe, et la Bible dit qu'il s'est rendu très utile à ceux qui avaient cru. Sans avoir été conduit à Jésus-Christ, il n'aurait pas été très utile à ceux qui avaient cru. Qu'est-ce qu'il aurait pu annoncer? Rien. C'est parce qu'il avait connu Christ maintenant qu'il pouvait être très utile. Et c'est pour cela aussi qu'il pouvait réfuter les contradicteurs et amener les Juifs à la connaissance de Jésus-Christ. Oh, que Dieu suscite encore des hommes comme Apollos qui ont une passion pour les Écritures. Pour les lire, pour les aimer, pour les faire connaître autour d'eux. Oh, que Dieu suscite vraiment encore un grand nombre comme cela. Je passe à cette troisième illustration de cette période de transition qu'on trouve au début du chapitre 19. Je lis verset 1 jusqu'au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Paul avait dit en quittant Éphèse, au chapitre 18, verset 21, « Je reviendrai vers vous si Dieu veut ». Il devait avoir cela en tête depuis qu'il les avait quittés. Ça devait le travailler, se dire, mais il voulait que je reste, il voulait entendre davantage, il faut que j'y retourne. Et là, on apprend qu'il a coupé dans les montagnes pour pouvoir aller le plus rapidement possible à Éphèse. Et là, il rencontre des disciples, hein, vous avez remarqué cela, verset 1er, ayant rencontré quelques disciples. Mais en s'entretenant avec eux, Paul comprend qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans leur état spirituel. Alors il pose quelques questions. Verset 2, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Alors on voit ici qu'il semble que ce soit des disciples et il semble qu'ils aient cru. Paul sait que, et il l'écrira aux Romains au chapitre 8 et au verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair. Et c'est aussi conforme à l'enseignement du Seigneur Jésus. Je prends par exemple Jean chapitre 7, verset 37, il est dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de, écoutez bien, l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus dit clairement, quand on croit, on reçoit le Saint-Esprit. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'est pas un chrétien. Donc la doctrine est claire. Et ailleurs, il dira deux reprises aux Corinthiens, dans la première et la deuxième épître, au chapitre 6, dans les deux épîtres, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Il dit ça aux Corinthiens qui ont tellement de travers. Il dit « Mais vous avez cru au Seigneur Jésus et vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans vos cœurs. » La question qu'on doit se poser, c'est disciple de quoi ou de qui? Et ça, c'est la véritable question. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est simplement un élève. Un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné au pied d'un maître. Et Aristote était disciple de Platon. Il était disciple. L'important, c'est de savoir de qui est-ce qu'il est le disciple. Et au verset 3, il nous est dit clairement, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient connu le baptême de Jean. Ils étaient disciples de Jean le Baptiste. Il faut croire. Mais la question c'est, qu'est-ce que l'on croit? En quoi est-ce qu'on a placé notre confiance? Sur quoi repose notre foi? Et parfois, la foi elle est mal positionnée. Les gens croient. Mais leur foi n'est pas sur la personne de Jésus-Christ. Parfois, la foi, elle est reposée sur l'Église. Oh, je fais confiance à l'Église. L'Église va me sauver. Mon œil. L'Église n'a jamais sauvé qui que ce soit. Il y en a qui ont confiance dans Mahomet. Mahomet n'est jamais mort pour qui que ce soit. Il y en a qui ont confiance dans Confucius ou dans je ne sais quoi. Les démons croient en Dieu même. Et ils tremblent. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas des chrétiens. Donc l'important, c'est de savoir vraiment où est notre foi et sur quoi elle repose. Qu'est-ce que vous avez cru? Et leur réponse a vraiment éclairé l'apôtre Paul. Ils n'ont même pas entendu qu'il y ait un Esprit Saint. Ils n'ont jamais entendu parler de l'effusion du Saint-Esprit à Pentecôte, et probablement pas entendu parler de Jésus-Christ et de son ministère, et certainement pas de sa mort et de sa résurrection. D'où la question de l'apôtre Paul, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent, on a été baptisé, on est des disciples, on a été baptisé. Mais de quel baptême vous avez été baptisé? Il dit, le baptême de Jean, il n'y en a pas d'autre. Ici, il y a autre chose. Et c'est là que l'apôtre Paul comprend leur situation spirituelle. Ils sont encore en chemin. Ils s'en sont arrêtés à l'appel de Jean à la repentance, mais ils ne connaissent pas véritablement Christ comme sauveur. Jean est mort avant que Christ n'accomplisse l'œuvre de notre rédemption. Et donc, il n'a pas expliqué cela. Ils n'ont pas entendu la fin de l'histoire. Et Paul se presse donc de leur raconter la suite. Et parce qu'ils croient en Christ le Seigneur, ils se font baptiser ou rebaptiser en son nom. Ils étaient en transition. Alors, reconnaissant leur foi réelle, l'apôtre Paul prie pour eux et il leur impose les mains. Et à ce moment-là, ils reçoivent le Saint-Esprit et parlent en langue et prophétisent. C'est la quatrième fois dans les livres des Actes des Apôtres que Luc nous indique l'ordre des événements conduisant à la réception du Saint-Esprit. Ça nous est expliqué en Actes chapitre 2 avec les Juifs de la Pentecôte. Ça nous est expliqué en Actes chapitre 8 avec les Samaritains. C'est encore l'apôtre Pierre qui est là. Ça nous est expliqué en Actes chapitre 10 avec la conversion de la famille de Corneille. Et là encore, c'est l'apôtre Pierre qui est là. Et puis ici même, avec les Juifs de disciples de Jean-Baptiste à Éphèse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ordre diffère à chaque fois. Alors, si vous prenez les Actes comme un livre de théologie, vous n'allez pas savoir quelle est la norme, quel est le modèle. Est-ce que Paul doit m'imposer les mains? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que je dois voir des langues de feu descendre sur mon front? Est-ce qu'il doit y avoir le bruit du vent dans la maison? Est-ce que je dois être baptisé d'abord? Est-ce que je dois être baptisé après? Vous ne pouvez pas ça, trancher ces choses-là. Parce que c'est un livre de transition et Dieu prend chaque peuple, chaque cœur et il les fait passer dans cette nouvelle alliance, dans ce livre. Pourquoi est-ce si important qu'il fasse cette expérience du parler en langue et de la prophétie? Rappelez-vous, ils ignoraient même qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils ignoraient! Il fallait qu'ils expérimentent la présence du Saint-Esprit dans leur propre cœur. Ils ont besoin de voir qu'ils ont véritablement reçu l'Esprit-Saint dont Paul parlait, comme les autres Juifs à Pentecôte. Cette fois, ce n'est pas Pierre qui imposait les mains. C'est Paul. Alors, il fallait que l'œuvre se fasse de la même manière que lorsque Pierre imposait les mains, pour que ces Juifs d'Éphèse et que tous les autres Juifs et tous les autres chrétiens puissent reconnaître, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et c'est cela qui importe, d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir connu cette même expérience. Voilà encore donc ces 12 qui ont fait cette expérience de transition du judaïsme à Jésus. Reconnaissons que nous passons parfois, nous-mêmes, par un temps de transition. Au tout début de notre vie de chrétien, il y a une période où on lâche certaines choses pour saisir la vie véritable. Pensez à ceux qui sont en train de faire ce pas, pour ne pas les scandaliser, pour ne pas les choquer par une manière légère de faire avec ce qui a encore beaucoup d'importance à leurs propres yeux. Et puis s'ils n'ont pas compris, ne leur tombez pas dessus comme sur des hérétiques, mais au contraire, encouragez-les à placer leur confiance en Jésus-Christ. Expliquer l'évangile. Seul l'évangile peut véritablement transformer une vie. Et aujourd'hui, si vous êtes en transition, si vous êtes en train de saisir ces choses, ces vérités-là, ne restez pas en transition. Ne restez pas en transition. Apollos n'était pas un chrétien. Les disciples d'Éphèse n'étaient pas des chrétiens. Ils le sont devenus chacun à leur tour. Saisissez l'œuvre de Christ et soyez sauvés. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, selon les Écritures. Il est ressuscité d'entre les morts, selon les Écritures. Et il nous offre une vie nouvelle, une vie éternelle, une vie remplie du Saint-Esprit dès l'instant où l'on croit en lui. Jésus-Christ a vécu la vie que vous auriez dû vivre. et il a connu la mort que vous auriez dû connaître à cause de vos péchés. C'est cela l'Évangile. Placez toute votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et puis soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Prions.